Europe 1, le 22-22-30, Julien Pierce.
Bonsoir et bienvenue sur Europe 1, c'est le journal de la nuit. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui et tout ce qui se passera demain. C'est parti pour 30 minutes d'info. Il est 22h, vous êtes sur Europe 1.
C'est un énorme soulagement, je peux vous dire. Hier soir, j'écrivais à tous mes employés. Ils ont hâte de nous retrouver, de retrouver aussi leur travail. Ça fait chaud au cœur.
Le soulagement de toute une profession, les restaurateurs savent enfin quand ils pourront retravailler. Emmanuel Macron a dévoilé dans la presse régionale son plan de sortie du confinement. 4 étapes jusqu'à fin juin avec une date en particulier à retenir, le 19 mai, réouverture des terrasses, des commerces et des lieux culturels avec jauge adaptée. Le détail de ce calendrier, les réactions, on va consacrer une grande partie de ce journal aux annonces du chef de l'État. Au sommaire également, la vaccination des adolescents, Pfizer et BioNTech demandent à l'Europe d'autoriser leur vaccin pour les 12-15 ans. Pour les scientifiques, c'est la seule solution d'atteindre l'immunité collective. Ils avaient signé une tribune dans Valeurs Actuelles fustigeant le délitement de leur patrie. 18 soldats en activité vont passer devant un conseil militaire pour avoir brisé leur devoir de réserve. Moins de vols et de cambriolages, mais plus de violences intrafamiliales. Le bilan 2020 des chiffres de la délinquance fortement marqué par les confinements. Et puis Paris battu, mais pas abattu. Au lendemain de la défaite en demi-finale de Ligue des Champions, les joueurs du PSG sont persuadés de pouvoir créer l'exploit au match retour. La météo, elle sera demain toujours agitée dans le sud où les pluies resteront soutenues. Temps plus calme en revanche sur la moitié nord. Quant aux températures, elles vont rester en dessous des normales de saison, nous dira Anissa Haddadi. La Bourse de Paris, elle a terminé quasiment à l'équilibre ce soir, moins 0,07% à 6302 points. Tous les détails à venir dans Top à Wall Street avec Claire Lemaître de Boursier.com. L'interview Echo, dans 20 minutes, elle s'intéressera à la gestion des données de santé. C'est un domaine crucial, surtout en temps de pandémie. Pour en parler, Emmanuel Duteil reçoit ce soir Jean-Marc Aubert, le président d'IGVIA France, le leader mondial de la gestion des données de santé. Et enfin, on découvrira ensemble les unes de vos journaux de demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Fini l'incertitude, les prévisions aux doigts mouillés. Ça y est, nous sommes enfin fixés sur les semaines à venir. Europe 1 vous révélait dès cet après-midi le calendrier du déconfinement fixé par Emmanuel Macron. Le chef de l'État qui s'est confié dans une interview à la presse quotidienne régionale. Louis Dragnel, la levée des restrictions s'étalera jusqu'à fin juin et se fera en 4 étapes.
Et même 5 si on compte l'étape 0 avec la réouverture des écoles lundi dernier. Alors, première étape, le 3 mai, avec le maintien du couvre-feu et du télétravail, la réouverture des collèges en demi-jauge pour les classes de 4e et 3e, tout comme les classes de lycée. À noter aussi un symbole, la fin des attestations pour les déplacements en journée et la fin des restrictions de circulation. Ensuite, deuxième étape, le 19 mai. Le couvre-feu sera décalé à 21h, télétravail maintenu mais réouverture des commerces avec des jauges. Les terrasses pourront ouvrir avec des tables de 6 personnes maximum. Les musées, cinémas et tous les lieux de culture pourront aussi accueillir du public avec une jauge de 800 personnes en intérieur et 1000 en extérieur. Idem pour les activités sportives dans les lieux couverts et en plein air qui devront suivre des protocoles sanitaires spécifiques. Pour cette deuxième étape, enfin, les rassemblements de plus de 10 personnes resteront interdits.
Voilà donc pour la première et la deuxième étape. Il y en aura 2 supplémentaires, le 9 et le 30 juin, Louis.
Absolument. Tout d'abord le 9 juin donc, avec décalage du couvre-feu à 23h et assouplissement du télétravail. Les cafés et restaurants rouvriront toujours avec cette jauge de 6 personnes par table et avec des protocoles spécifiques. Les lieux de culture, tout comme les salons et foires d'exposition, pourront alors accueillir 5000 personnes, tout comme les établissements sportifs, à la condition d'avoir un pass sanitaire. Pour ce qui est de la pratique sportive, cette fois, les salles pourront rouvrir et les sports de contact en plein air seront autorisés, ainsi que les sports sans contact en intérieur. Enfin, pour cette troisième étape, les touristes étrangers pourront venir en France s'ils ont un pass sanitaire. Pour terminer, quatrième et dernière étape, le 30 juin. Fin du couvre-feu et des limites de jauge, mais maintien des gestes barrières. Il sera possible de se rendre à tout événement de plus de 1000 personnes à la condition d'avoir un pass sanitaire. En revanche, une ombre au tableau, les boîtes de nuit ne pourront toujours pas rouvrir et impossible à ce stade d'avoir la moindre échéance.
Louis de Ragnel du service politique d'Europe 1. Une précision concernant le pass sanitaire que le président veut mettre en place. Il s'agira de produire un test négatif réalisé dans les 2 jours qui précèdent ou un certificat de vaccination. Si les patrons de boîtes de nuit sont ce soir toujours dans le flou le plus complet, ce n'est pas le cas en revanche des commerçants, restaurateurs et cafetiers. Ils pourront rouvrir partiellement dans un premier temps, on vient de l'entendre, le 19 mai avec des jauges pour les magasins et les terrasses uniquement pour les restaurants et débits de boissons, des annonces qu'ils attendaient depuis longtemps. Mais ce soir, les réactions sont partagées, Clément Le Saffre.
Oui, et commençons par la restauration. Là, c'est la libération. La question pour les restaurateurs, c'est de savoir s'ils rouvriront dès le 19 mai, juste avec leur terrasse, pour ceux qui en ont, ou si c'est plus intéressant d'attendre le 9 juin en salle. Mais peu importe aujourd'hui pour Babette Leduc, restauratrice en Loire-Atlantique.
C'est un énorme soulagement, je peux vous dire. Hier soir, j'écrivais à tous mes employés. Ils ont hâte de nous retrouver, de retrouver aussi leur travail, de remettre un bon coup de ménage qui va être prévu vers le 10-11 mai, quoi qu'il se passe. Puis voilà, retrouver nos clients. Nos clients, on sait qu'ils vont être là, qu'ils sont fidèles et qu'on aura du monde, par contre, dès notre réouverture. Et ça, ça fait chaud au cœur.
Donc de la joie dans la restauration, vous l'entendez. En revanche, les commerçants, eux, font grise mine. Ils avaient demandé une réouverture le 10 mai pour profiter du week-end de l'Ascension. Ce sera finalement le 19 mai. Éric Mertz, président d'Allure, le syndicat des TPE-PME de l'habillement, est très déçu.
C'est une véritable catastrophe. Une réouverture le 19 mai va définitivement condamner la marge que nous aurions pu faire sur la saison de printemps et d'été. Ça va probablement ouvrir très rapidement la vente à perte ou l'avancement de la date des soldes du 23 juin au 19 mai. Et pour la deuxième année consécutive, on va se retrouver avec une saison blanche sur la partie printemps-été.
Alors tout ça, on le rappelle, reste quand même lié à l'évolution de la situation sanitaire. Emmanuel Macron le rappelle dans son interview à la presse régionale, les réouvertures pourront être bloquées dans les départements où le nombre de contaminations restera trop élevé.
Clément Le Saffre du service économie d'Europe 1. Autre secteur qui reprendra vie à partir du 19 mai, celui de la culture. Musées, monuments, théâtres et cinémas pourront à nouveau accueillir du public après 200 jours de fermeture, très exactement. La lumière va donc faire son retour dans les salles obscures, mais il y aura quand même un protocole à respecter, Mathieu Charrier.
Et oui, avec d'abord un siège sur 3 maximum d'occupés et ce couvre-feu donc à 21h, ce qui permet quand même de sauver la séance de 19h, la séance de sortie du travail en quelque sorte. Dans un deuxième temps, à partir du 9 juin, 2 sièges sur 3 pourront être occupés et le couvre-feu étant repoussé à 23h, les cinémas fonctionneront quasi normalement. Seule la dernière séance de 22h ne sera toujours pas rétablie. Un sentiment, comme chez les restaurateurs, et bien un sentiment domine chez les professionnels du cinéma, c'est le même, le soulagement. Écoutez justement Richard Patrick qui dirige la Fédération Nationale des Cinémas Français.
Enfin, c'est un vrai ouf de soulagement, c'est un vrai bonheur. Mais sincèrement, pour l'ensemble des 15 000 collaborateurs des salles de cinéma qui se sentent totalement inutiles depuis 6 mois, qui n'ont rien fait depuis 6 mois, les restaurants, eux, ont eu au moins la vente à emporter. Nous, on n'avait rien. Donc oui, enfin, ouf pour les films qui vont pouvoir retrouver leur écran naturel de la salle de cinéma. Et puis surtout, enfin pour les spectateurs qui vont pouvoir quitter leurs petits écrans et leur télévision pour pouvoir venir découvrir un grand film dans une grande salle de cinéma. C'est capital.
Voilà, justement, c'est la question maintenant. Est-ce que les spectateurs qui ont pris l'habitude de regarder des films chez eux, sur les plateformes notamment, vont retrouver le chemin des salles ? Les professionnels sont confiants parce que lors du premier déconfinement, ils étaient progressivement revenus.
Mathieu, c'est la question que tous les cinéphiles se posent ce soir. Quels sont les films qui seront à l'affiche pour la réouverture des cinémas ?
Alors d'abord, il va y avoir tous les films dont la carrière avait été stoppée par le confinement, qui n'avaient passé que quelques jours en salle et qui vont ressortir. Adieu les cons, par exemple, d'Albert Dupontel, multi-césarisé depuis, ADN de Mai Wen, Garçon chiffon de Nicolas Maury ou Drunk, récent Oscar du meilleur film étranger. Et puis forcément, il y a aussi des nouveaux longs métrages qui vont sortir. Là aussi, la liste s'allonge de minute en minute. Je vous en cite quelques-uns. Envole-moi, porté notamment par Gérard Lanvin et Victor Belmondo. Mandibule de Quentin Dupieux avec le duo du Palmachot. Cruella aussi, signé Disney avec Emma Stone, ou Promising Young Woman, très attendu. Voilà, ces deux films sortiront le 26 mai. Va y avoir embouteillage de films, c'est certain. C'est embêtant pour les professionnels du cinéma, mais ça veut dire que le public, lui, aura l'embarras du choix.
Merci beaucoup Mathieu Charrier, chef du service culture d'Europe 1. 3 mai, 19 mai, 9 juin et 30 juin. Voilà donc les 4 dates à retenir ce soir. Les 4 étapes du déconfinement qui sera bien national. Et ceci, tout va bien. Parce que c'est là le bémol que met Emmanuel Macron dans son interview. L'ensemble de ce calendrier pourra être adapté département par département en cas d'aggravation soudaine et massive de la situation sanitaire. Parmi les critères retenus, on trouve un taux d'incidence supérieur à 400 cas pour 100 000 habitants. Cela concerne actuellement les 8 départements d'Île-de-France. Au sujet maintenant de la vaccination, Emmanuel Macron confirme l'information qu'Europe 1 vous dévoilait dès hier. Les personnes majeures obèses pourront se faire vacciner dès le 1er mai, c'est ce samedi. Cela concerne au total 2,3 millions de Français, ce dont l'indice de masse corporelle est supérieur à 30, explique le chef de l'État, qui exclut pour l'heure d'élargir l'accès à la vaccination. Cela n'empêche pas Pfizer et BioNTech d'anticiper l'ouverture de la vaccination des plus jeunes. Les deux laboratoires sont sur le point de déposer une demande d'autorisation auprès de l'Agence européenne des médicaments. Demande pour les 12-15 ans, c'est-à-dire les adolescents, Victor Delande.
Oui, en déposant son autorisation sur le bureau de l'Agence européenne du médicament dans les prochains jours, ça rend possible une homologation dès le mois de juin prochain. Pour le moment, il faut rappeler que ce vaccin est autorisé seulement pour les personnes âgées de 16 ans minimum. Et d'après les premiers résultats des essais cliniques sur les adolescents, l'efficacité du vaccin Pfizer sur cette population est excellente, proche de 100%. Dans la foulée, le laboratoire Pfizer-BioNTech pourrait déposer une autre autorisation, cette fois pour les 5-12 ans. Le but est clair, obtenir une immunité plus importante au sein de la population pour bloquer la transmission du virus et donc avoir le moins possible de nouveaux cas dans les prochains mois. Avec la circulation des variants, il faudrait qu'environ 90% des personnes soient vaccinées, de la population majeure. Pour les scientifiques, il n'y a aucun doute, ce seuil est trop élevé. En clair, on n'y arrivera pas. Et donc, pour espérer une immunité collective, les scientifiques estiment que la vaccination des ados, puis des enfants, et le bon moyen pour y arriver.
Victor Delande du service Société d'Europe 1. La campagne vaccinale qui se porte bien. 545 800 doses ont été injectées aujourd'hui. C'est un record. Et puis notez qu'un premier cas de variant indien a été détecté en France, dans le Lot-et-Garonne plus précisément. Il s'agit d'un patient revenu d'Inde, précise l'Agence régionale de santé. Il a été isolé ainsi que tout son entourage. Un deuxième cas est suspecté à Bordeaux. Cette fois, le résultat du séquençage sera connu demain.
Écoutez le monde changer, Europe Soir, le 22-22-30.
Ils avaient signé une tribune dans Valeurs Actuelles fustigeant le délitement de leur patrie. 18 soldats en activité ont été identifiés par l'armée et passeront chacun devant un conseil militaire. Leur tort, d'avoir enfreint la règle d'or de la grande muette, le devoir de réserve, comme l'explique Hervé Grandjean, le porte-parole du ministère des Armées.
Ce qui sera sanctionné, puisque les procédures disciplinaires débutent et les sanctions n'ont pas encore été rendues, c'est le fait de se mettre à l'écart de ce qu'est le statut général d'un militaire, qui est prévu par la loi. Et le statut général d'un militaire, que dit-il ? Il dit qu'un militaire doit, en tout temps, en tout lieu, garder sa neutralité, sa réserve et sa loyauté vis-à-vis du pouvoir exécutif. Et à l'évidence, cette tribune, qui est une tribune à connotation politique, s'écarte de ces vertus cardinales des militaires que sont la neutralité et la loyauté. Et donc c'est cela qui sera sanctionné.
Le porte-parole du ministère des Armées au micro européen de Nicolas Feldman. Le chef de l'État a assisté aujourd'hui aux obsèques privées de Stéphanie Monfermé, la fonctionnaire de police assassinée vendredi dernier par un terroriste au commissariat de Rambouillet. Et c'est dans cette ville des Yvelines que Jean Castex présidera demain une cérémonie d'hommage national. La victime sera décorée de la Légion d'honneur à titre posthume. Le ministère de l'Intérieur a publié ce soir les statistiques de l'insécurité et de la délinquance pour 2020, année atypique avec la pandémie. Résultat, les vols et les cambriolages ont été en forte baisse, à l'inverse des violences intrafamiliales en hausse de 9%, conséquence directe des confinements. Gladys Lafitte, on en sait désormais plus sur le profil des victimes.
Oui, et sans surprise, 85% d'entre elles sont des femmes. Et en ce qui concerne les auteurs de violences intrafamiliales, eh bien ce sont des hommes à 87%. En 2020, les violences sexuelles ont aussi beaucoup augmenté, notamment les viols, plus 11%. Ça s'explique notamment par la libération de la parole des victimes. Elles portent plus plainte, c'est aussi pour ça que les statistiques augmentent. Ce qui est aussi frappant, c'est le fait que plus de la moitié des victimes de violences sexuelles sont des mineurs. Autre indicateur de cette année 2020 très atypique, la baisse massive de certaines formes de délinquance, notamment sur la voie publique, forcément avec moins de gens dans la rue durant les deux confinements, presque moins 20% pour les vols violents sans armes par exemple. On apprend aussi qu'ils sont commis à 45% par des mineurs, tout comme les vols de véhicules.
Gladys Lafitte du service police-justice d'Europe 1. Les 9 ex-membres de l'extrême gauche italienne qui ont été interpellés ou se sont livrés à la justice française ont été relâchés aujourd'hui. Ils sont placés sous contrôle judiciaire dans l'attente que les demandes d'extradition qui les visent soient examinées par la justice française. On termine avec le foot et cette immense désillusion hier soir pour les supporters du PSG. Vous l'avez vécu en direct sur Europe 1. Les Parisiens se sont inclinés 2-1 à domicile face à Manchester City en demi-finale de Ligue des Champions. Match retour mardi en Angleterre. Il faudra donc un exploit pour se qualifier en finale et les joueurs du PSG y croient, Cyril de la Morinerie.
Oui, hier soir, dès le coup de sifflet final, le capitaine du PSG s'est aussitôt projeté sur ce déplacement crucial à Manchester. Si on n'y croit pas, il ne faut même pas y aller, a lancé Marquinhos à l'un des diffuseurs. Le PSG devra réaliser l'exploit à l'extérieur. Cela tombe bien, c'est l'une de ses spécialités cette saison. Victoire fleuve à Barcelone, succès marquant sur le terrain du tenant du titre à Munich, mais aussi à Manchester United. En fait, tout dépendra de la forme physique des Parisiens, explique l'ancien joueur du PSG, Laurent Fournier.
En difficulté, je ne sais pas, puisque les meilleurs résultats, ils les ont fait à l'extérieur. Après, où c'est inquiétant, c'est la baisse physique du Paris Saint-Germain. Si contre City, vous n'êtes pas à 200% pour être agressif, techniquement, c'est beaucoup plus fort.
En tout cas, mentalement, Paris est à 200%. C'est un PSG conquérant. Neymar, qui est passé à côté de son match, donne rendez-vous aux supporters mardi prochain sur sa page Instagram. « Nous avons perdu une bataille, mais pas la guerre. Je crois en mon équipe. » Il faut dire qu'il y a 2 ans, en Ligue des Champions, l'Ajax Amsterdam avait perdu 2-1 à l'aller, mais avait renversé la situation en éliminant le Real Madrid après une victoire à l'extérieur, 4-1 au match retour. Pour Paris, c'est la preuve que c'est encore possible.
Cyril de la Morinerie. Du foot, il y en a en ce moment. Demi-finale aller de la Ligue Europa, la petite Coupe d'Europe. Et pour l'heure, Manchester United est tenu en échec sur sa pelouse. 2-2 face à l'AS Roma. L'autre demi oppose Villarreal à Arsenal. Et pour l'heure, ce sont les Espagnols qui mènent 2-0, 56e minute de jeu. La météo, Anissa Haddadi, au programme demain, une nouvelle journée grise et humide.
Oui Julien, le temps est à nouveau instable demain avec des Pyrénées jusqu'au Grand Est, des averses fréquentes. C'est encore une fois dans le sud que la situation sera vraiment regardée de près parce que vous le savez, c'est un épisode pluvieux de 3 jours que l'on attend et la journée la plus critique est donc prévue pour samedi. J'aurai l'occasion de vous en parler. Le long de la façade atlantique en Bretagne, en Normandie, sur les Hauts-de-France et la région parisienne, c'est dans ces régions que le temps reste sec et lumineux demain matin. Au fil des heures, le temps reste toujours très agité sur la moitié sud et puis les averses vont gagner du terrain, remonter vers le nord, puisque de la Bretagne jusqu'à l'Alsace en passant par les Pays de la Loire, la région parisienne et la Bourgogne, nous aurons une après-midi assez pluvieuse demain. Les températures, elles sont fraîches pour la saison, en dessous des normales. Avec le retour des gelées matinales, moins 2 à Charleville-Mézières, moins 1 à Beauvais, 3 degrés à Brest et Metz, 5 pour Paris, 8 degrés à Bordeaux, 10 à Toulouse et 12 à Nice et Perpignan. Au meilleur de la journée, ça ne va pas franchement grimper avec 10 degrés à Dunkerque seulement, 14 à Pau et Caen, 16 pour Besançon et Bordeaux, 17 à Paris et 21 la maximale pour Ajaccio.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Europe 1. Restez avec nous dans un instant, toutes les infos de la bourse. Top à Wall Street avec Claire Lemaître de Boursier.com, suivi de l'interview Echo. On va s'intéresser à la gestion des données de santé. C'est un domaine crucial. Pour en parler, Emmanuel Duteil reçoit dans quelques minutes Jean-Marc Aubert, le président d'IGVIA France, le leader mondial de la gestion des données de santé. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
22h19 sur Europe 1, bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. C'est l'heure de Top à Wall Street. Et c'est avec Claire Lemaître de Boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Julien.
Séance hésitante aujourd'hui à Wall Street et c'est finalement du vert grâce au soutien de la Fed et aux bons résultats des entreprises.
Oui, ça monte pour le Dow Jones, plus 0,71%, 34 060 points. Petite hausse de 0,22% pour le Nasdaq, 14 082 points. Des marchés rassurés par la Réserve fédérale américaine. Sa réunion monétaire s'est tenue hier soir. Pas de changement de cap, on reste sur une politique extrêmement accommodante. Et puis les résultats sont bons, résultats explosifs pour Apple au premier trimestre grâce au succès de ses iPhones compatibles 5G. Apple qui perd tout de même 0,1% à cause de la pénurie de semi-conducteurs qui a démarré avec la crise sanitaire et qui inquiète beaucoup pour les prochains mois. Cette pénurie de puces, elle pèse très lourd ce soir sur la production automobile. Ford chute de près de 10%. 5% après ses comptes, donc beaucoup d'inquiétudes sur ce sujet. Et puis c'est mieux pour Facebook qui bondit de plus de 7%. Les résultats sont meilleurs qu'attendus pour le réseau social.
Le CAC 40 était pour sa part bien parti, mais a vacillé en fin de séance. Il sauve de justesse la barre des 6300 points.
Oui, le CAC 40 est à 6302 points, petit repli de 0,07%. Du rouge donc, malgré encore de bons résultats trimestriels du côté des entreprises. ST Microelectronics gagne près de 2% grâce à une forte demande donc pour ses puces électroniques. Le groupe qui compte Apple ou Tesla parmi ses gros clients et qui est optimiste pour les prochains mois. Et puis on a aussi Airbus qui gagne 0,7% après ses résultats.
Ça monte aussi pour TF1. Le groupe de télévision a publié un bénéfice trimestriel en forte hausse.
Les mesures de confinement en France ont soutenu ses audiences au premier trimestre. Plus 3,7% ce soir pour TF1. Repli en revanche et repli prononcé pour l'automobile alors que la pénurie des semi-conducteurs inquiète comme à Wall Street. Renault et Stellantis lâchent environ 4%. Ailleurs en Europe, c'est du rouge ce soir pour les marchés. Londres perd un tout petit 0,03%. Moins 0,9% pour Francfort, moins 0,7% pour Milan. Madrid s'en sort mieux en hausse de 0,3%. Et à Paris, Julien, le CAC 40, 7,01%, 6302 points.
Merci beaucoup Claire Lemaître de Boursier.com et à demain. 22h21 sur Europe 1, on passe à l'interview éco. Emmanuel Duteil, c'est à vous.
Bonsoir Jean-Marc Aubert.
Bonsoir.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le patron d'IGVIA en France. Alors c'est quoi IGVIA? C'est le leader mondial de la donnée de santé. Vous êtes donc un homme extrêmement important en ce moment parce que grâce à la donnée de santé, on va peut-être pouvoir juguler un petit peu cette pandémie Covid. C'est indispensable de savoir bien gérer nos données de santé et c'est ce que vous faites chez IGVIA.
Oui, tout à fait. La donnée de santé, par exemple dans le Covid, a permis, un, de comprendre un peu la pathologie dès le départ, par exemple les facteurs de risque. Elle a permis aussi de travailler sur les traitements et sur les vaccins, parce que c'est la donnée de santé via soit des essais cliniques, soit des données qui sont récupérées au cours des traitements usuels des patients, qui permet d'évaluer quels sont les bons médicaments, quels sont les mauvais, les bons vaccins, et puis aussi d'éventuels effets secondaires. Et puis la donnée de santé va permettre aussi de suivre l'efficacité de la vaccination. Par exemple, en Angleterre, nous avons une grosse étude que nous faisons avec le gouvernement britannique qui permet de comprendre mieux la transmission pour les patients qui ont déjà eu le Covid et pour les patients aussi qui ont été vaccinés ou même pour les patients qui ont été ni vaccinés ni qui ont eu le Covid et de comprendre les différences.
Mais alors, pour qu'on comprenne bien nous comment ça fonctionne, parce que vous êtes un spécialiste, hein, vous avez travaillé au ministère de la Santé sur les statistiques de santé, vous êtes vraiment un grand connaisseur de cette question. Mais qu'est-ce que vous récupérez concrètement, par exemple en France, chez IGVIA?
Eh bien, on peut, ça dépend. On peut récupérer soit des choses aussi simples que des prescriptions de produits de santé, soit on peut récupérer des données plus complexes auprès des médecins ou auprès des hôpitaux. L'objectif, en fait, c'est de récupérer pour une population donnée des données anonymes qui nous permettent de suivre cette population. Pour le Covid, par exemple, aujourd'hui, on est capable de comprendre la part de patients qui vont voir leur médecin qui ont un Covid. Aussi, pourquoi pas, des sujets comme la récidive. Voilà un peu. Ce qu'on fait, juste, c'est travailler donc avec un professionnel de santé et récupérer des données qu'il récupère lui pour son exercice à lui, qui sont anonymisées avant d'être utilisées par des sociétés comme IQVIA.
Mais est-ce que cette crise ne montre pas que la France avait raté ce virage du traitement de la donnée, notamment de santé, quand on voit qu'il faut que ce soit des citoyens qui créent des collectifs pour qu'on puisse avoir les endroits référencés avec les doses qui pourraient se perdre d'un vaccin, qu'on n'est pas capable de le faire d'un point de vue étatique? Est-ce que la France n'a pas raté le coche?
Écoutez, la France a une base de données de santé, enfin qui est une base de données de remboursement de l'assurance maladie qui est quelque chose d'assez extraordinaire, puisque pour l'ensemble de la population, on comprend un peu les parcours de soins. En revanche, il est vrai que des pays comme dans le nord de l'Europe, la Suède, le Danemark, la Norvège ou alors comme Israël, ont des bases de données beaucoup plus complètes et qui permettent un suivi beaucoup plus précis de certaines pathologies.
Est-ce que même d'une certaine manière, on pourrait presque se dire que des entreprises privées comme vous pourraient ne pas exister et que ça pourrait être géré par les États? C'est une richesse énorme qui provient de données étatiques.
Alors, nos données proviennent de différentes sources. Il y a une première source qui sont les essais cliniques. Donc, ce sont des données qui sont, ce sont des essais qui sont financés par les laboratoires pharmaceutiques pour tester des produits de santé. Effectivement, d'autres données viennent de, quelquefois, on utilise de la donnée publique ou d'autres types de données privées. Ce qui est important, si vous voulez, c'est que la France, en créant le Health Data Hub en 2018, avait compris qu'il fallait qu'elle avance. Et ce qui est aussi impressionnant, c'est que il y a quand même eu un certain nombre de systèmes d'information qui ont été mis de manière extrêmement vite en place. Hein. Aujourd'hui, on suit tous les résultats des tests de Covid, alors que on ne les suivait pas, ne serait-ce qu'il y a un an.
Alors, il y a aussi des points intéressants. Vous le disiez, hein, vous travaillez avec des gouvernements. Vous avez cité tout à l'heure la Grande-Bretagne, mais on pourrait parler aussi d'Israël, qui est cité en exemple dans cette campagne vaccinale, même si c'est très compliqué de comparer avec les autres pays. Du coup, vous pouvez voir, vous, si, par exemple, il y a de gros effets secondaires sur les vaccins au travers de vos études. On en parle beaucoup, notamment avec le vaccin d'AstraZeneca. Qu'en est-il vraiment?
Le sujet, c'est que dans un essai clinique, par exemple, on a 30 000 personnes. Et sur 30 000 personnes, on a, je veux dire, on trouve les effets secondaires fréquents pour les vaccins contre Covid. Les effets secondaires fréquents, ce sont des effets liés à la réaction de votre système immunitaire pour se défendre par rapport au virus. Alors que, effectivement, des données sur des grandes populations montrent que dans quelques cas, pour un million, il peut y avoir des effets secondaires plus graves. Et ça, on peut hélas mesurer ces effets que sur des grosses populations si on a des bonnes.
Mais là, par exemple, est-ce que vous, avec ce que vous avez pu étudier, vous pouvez nous dire ce soir si c'est inquiétant de se vacciner avec l'AstraZeneca ou pas?
Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que vous avez, en tout cas, pour quelqu'un comme moi, à 49 ans, vous avez beaucoup moins de risques de mourir en vous vaccinant avec de l'AstraZeneca que d'attendre d'avoir le Covid. Et la différence est entre 1% et 1 pour 1000. Voilà, j'ai entre 100 et 1000 fois moins de risque d'avoir un problème avec l'AstraZeneca plutôt que d'avoir un problème avec le Covid dans les 6 prochains mois.
Ça permet donc, hein, toute cette gestion de la donnée de la santé, ça permet de se préparer aussi à l'avenir. Et c'est en cela aussi où c'est capital de bien savoir la gérer, parce que ça permet tout simplement d'être plus efficace dans sa politique de santé, Jean-Marc Aubert.
Oui, parce que la donnée, bien sûr, elle permet d'aider à gérer la crise du Covid, mais elle permet aussi de comprendre les problèmes de qualité qu'on peut avoir dans le système de santé, les problèmes aussi d'attente, puisque c'est pour certains pays, par exemple, ça a été important. Elle permet aussi de comprendre la réalité de l'efficacité des traitements, parce que quelquefois, les essais cliniques ne sont pas parfaits. On parlait là des effets secondaires très faibles qui peut y avoir. Il peut y avoir d'autres sujets. Donc la donnée de santé permet de transformer le système de santé. Par exemple, je vous donne un exemple, si vous voulez. On a de plus en plus utilisé de la donnée de santé pour travailler avec les médecins sur le dépistage de la grippe, ce qu'on appelle les objectifs de santé publique. Eh bien, on voit que pouvoir afficher les données de santé auprès des professionnels de santé, leur différence de pratique par rapport à d'autres professionnels de santé, leur permet d'améliorer leur pratique. Et il y a des résultats assez encourageants d'augmentation de la vaccination ou d'amélioration du traitement des patients.
Eh bien, merci pour tous ces détails. C'était Jean-Marc Aubert qui est à la tête d'IQVIA France, le leader mondial de la gestion des données de santé. Un grand merci d'avoir été notre invité ce soir. Nous, on se retrouve demain, 22h20.
Merci beaucoup, Emmanuel Duteil. On vous retrouvera également demain à 13h dans La France Bouge avec Elisabeth Assayag. Et vous allez mettre la main à la pâte, si je puis dire, puisque vous recevrez Maxime Holder, le patron du groupe Paul, l'une des plus grandes franchises de boulangerie. Et voici donc ce que vous pourrez lire demain à la une de vos journaux, qui sont évidemment nombreux à revenir sur le calendrier du déconfinement annoncé aujourd'hui par Emmanuel Macron. Les quatre temps du déconfinement, titre Libération. Macron fixe un cap clair pour les réouvertures, précise les Échos. Il fixe le cap et entre en campagne, ajoute Laurent Baudin dans l'Alsace. Car si le président ne dit rien de ses intentions dans l'interview qu'il a accordée à la presse régionale, il est clair qu'il vise un second mandat à l'Élysée, écrit l'éditorialiste. Une perspective qui dépendra beaucoup de la manière dont le pays sortira de cette crise. Et quand bien même nous y arriverions, nous n'en aurons pas fini avec le Covid tant qu'il continuera à circuler sur la planète, ajoute Guillaume Goubert dans La Croix. Nous devons, écrit-il aussi, nous mobiliser pour que le reste de l'humanité ait largement accès à la vaccination. Or, c'est aujourd'hui loin d'être le cas. L'égoïsme sanitaire des pays riches risque de se payer très cher lorsque le virus reviendra ici en ayant pris ailleurs une autre forme, prévient l'éditorialiste de La Croix.